Chapitre 7. Dernier secret. Aléa descendit seule dans la cour du palais, sous les premiers rayons du soleil. Mjol n'y était pas, mais elle s'assit sur le même banc que la veille pour regarder Galiad et son fils Erwan qui s'entraînaient déjà. Toute la nuit, elle n'avait cessé de penser à sa conversation avec Félim et à tout ce qui en découlait. Alors que son regard se perdait dans le vague et que le bruit des épées s'éloignait petit à petit de son esprit, elle plongea de nouveau dans ses pensées et oublia le monde autour d'elle. Elle voulait voir en elle-même. Elle était décidée à ne plus se mentir et à fouiller dans le tréfonds de son âme pour y trouver quelque réponse. Sa propre réponse. Qu'était-elle devenue? Avait-elle changé? Ylvain lui avait-il vraiment transmis quelque chose? Elle essaya de retrouver cette sensation étrange qu'il avait saisie quand elle avait crié sur Almar ou quand le Herilim avait essayé de la repérer. Elle ferma les yeux et chercha au plus profond d'elle-même. Elle essaya de ne plus penser à rien et seulement de sentir. Sentir son âme. Sentir ce qu'il y avait derrière le souffle bruyant de sa respiration. Mais elle ne trouva rien. Elle entendait seulement battre son cœur. Alors elle chercha encore plus loin, au-delà de cette pulsation, comme si elle avait voulu l'arrêter. Elle fouilla, déchira le voile obscur qui obstruait les yeux de son âme, et là, un instant, une seconde seulement, elle crut voir une flamme. Une petite lumière qui vacillait au loin, dans l'obscurité totale. Elle n'était pas sûre. La chose était tellement insaisissable, fuyante, floue. Elle essaya de ne pas perdre le contact, de s'approcher de la lueur, mais chaque geste semblait l'éloigner davantage. Il fallait faire autrement, apprendre à maîtriser son esprit. « Mademoiselle ?» Aléa sursauta et faillit tomber de son banc. Galiad l'attrapa par l'épaule juste à temps. « Pardon, je vous ai fait peur ?» demanda le magistel, visiblement gêné. Non, je rêvassais. J'étais complètement distraite, je suis désolée, je ne vous ai pas vu arriver. Félim m'a demandé de vous enseigner le maniement de l'épée. Je lui ai dit que je trouvais cela un peu étrange de vouloir apprendre à une jeune fille à se battre, mais il a insisté et m'a dit que vous seriez ravie. Il a dit ça ? S'étonna Aléa. Oui, il s'est trompé ? Demanda le grand guerrier qui avait l'air déçu. Non. Mais je ne sais pas si je ferai une bonne élève. Votre ami Mjoln se débrouille très bien. Félim m'a dit qu'il avait même fait preuve de courage et d'initiative lors d'un combat où vous étiez présente, n'est-ce pas?
Mjoln?
Oui, c'est un bon élève. Il a toutefois encore bien des choses à apprendre, surtout s'il veut maîtriser une épée aussi belle que Cadel. Il a commencé à s'entraîner hier, et il connaît déjà quelques passes des plus efficaces. Mon fils lui a donné rendez-vous ce matin. Vous voudrez sans doute bien vous joindre à eux. » Aléa accepta, et Galiad demanda à des serviteurs d'apporter à la jeune fille des vêtements adéquats. Elle partit s'habiller dans sa chambre, avant de retrouver enfin le jeune Erwan dans la cour, là où s'entraînaient chaque jour les magistels.
« Bonjour Aléa !»
l'accueillit le jeune homme en lui tendant une épée. Il avait attaché ses cheveux sur le haut de son crâne, en toupet, et le bleu de ses yeux éclairait son long visage. Il était beaucoup plus grand qu'Aléa, qui se sentit intimidée. Elle n'arrivait pas à le regarder normalement tant le souvenir de son rêve la hantait. Ce n'était pas lui qu'elle voyait, mais l'image qu'elle avait gardée de son rêve. C'était troublant, et Aléa peinait à balbutier une réponse quand, heureusement, Mjoln fit son apparition.
« Bonjour les amis, ho ho !»«
Ah, te voilà toi, petit cachotier, il paraît que tu apprends à te battre !»«
Oh oui, tu vas voir ça !»
Le fils du magistel les emmena tous les deux dans le cercle d'entraînement et commença sa leçon. Tout au long de la séance, il sembla ne pas remarquer le regard étrange de la jeune fille. Un peu confuse au début, Aléa finit par s'amuser après les premiers combats et tous trois rirent plusieurs fois aux éclats, tantôt parce que Mjoln ou Aléa tombaient sur les fesses, tantôt parce qu'il réussissait sans le vouloir quelques prouesses remarquables. Aléa trouvait son épée un peu lourde, mais elle n'avait rien perdu de l'agilité qu'elle avait acquise dans les rues de Saratea. Elle avait appris depuis longtemps à se battre avec les mains, avec un lance-pierre, ou même avec un bâton, et cela lui facilita l'apprentissage de l'épée. Erwan n'avait pas encore 18 ans, Mais il était déjà un excellent professeur. Si bien qu'à l'heure du repas, Mjoln et Aléa se pressèrent de manger tant ils avaient envie de redescendre dans la cour s'entraîner de nouveau avec le fils du Magistel. C'était une bouffée d'air frais bienvenue dans leur nouvelle vie. Erwan était patient, poli, attentionné, et il ne posait pas sur Aléa le même regard que les druides. Cela semblait l'analyser en permanence, comme s'ils essayaient de lire dans son esprit. Erwan, lui, la regardait avec respect, discrétion, et peut-être même un soupçon de timidité à son tour. Une timidité qu'il n'avait pourtant à l'égard de personne d'autre. Ils passèrent ainsi 4 jours entiers à s'entraîner avec assiduité, et les 2 élèves firent rapidement des progrès considérables. Ils apprirent le coup droit, le coup de pointe, l'estocade, la feinte, le contre, ils apprirent à esquiver, et Erwan accepta même de leur enseigner une botte secrète qu'il tenait de son père et qui permettait de désarmer l'adversaire d'un seul coup de poignet. Il montra le geste à ses 2 élèves, puis leur demanda de s'y essayer, l'un contre l'autre. Mjoln commença. Il tenta de désarmer Aléa, mais ne parvint pas à faire passer la pointe de son épée suffisamment près du poignet de la petite.
« Il y a là une injustice évidente !»
se plaignit le nain, vexé. « L'âge ?» se moqua Aléa.
« Non, la taille, bien sûr. Essaie donc à ton tour, on verra bien qui rira le dernier. »
Aléa se mit en position. Rien ne l'amusait tant que de voir le nain offusqué. Il avait alors une moue des plus drôles. Sa lèvre inférieure remontait sous son gros nez et ses sourcils descendaient si bas qu'ils cachaient presque ses yeux. Mjoln passa à l'attaque, mais Aléa parvint de justesse à glisser la pointe de son épée derrière la garde du nain, et d'un coup de poignet, elle lui fit perdre prise. L'épée s'envola avec une lenteur élégante pour aller finalement se planter dans le sable, quelques pas derrière lui. Mjoln passa de la surprise hébétée à la fureur absolue.
« Tu n'as pas le droit !»
hurla-t-il en allant chercher son épée. Erwan intervint avant que la colère du nain donne lieu à une véritable dispute.
« Eh bien, vous avez l'un comme l'autre des leçons à tirer de tout ça.
Mjoln, une leçon d'humilité.
Allons, cher nain, vous n'allez pas en vouloir à une jeune fille de vous avoir désarmée. Vous êtes bien au-dessus de ça, n'est-ce pas ?»
Aléa éclata de rire de nouveau, et Erwan adressa au nain un clin d'œil amical. Mjoln fit la moue un court instant, puis il ne put s'empêcher de sourire en voyant Aléa.
« Quant à toi, Aléa, si tu ne plies pas ton poignet quand tu fais ce geste, tu vas finir par le casser. Surtout si tu tombes sur quelqu'un qui s'accroche davantage à son arme que notre ami Mjoln.
Je n'ai pas eu besoin de le plier à l'instant. Je crois que j'ai bien compris ta botte secrète.
« Ah oui? Veux-tu essayer contre moi ?»
la défia Erwan, en posant la pointe de son épée devant les pieds d'Aléa. La jeune fille regretta aussitôt d'avoir parlé si vite. Mais elle ne pouvait revenir en arrière. Après tout, elle avait ses chances, et l'idée de combattre Erwan n'était pas pour lui déplaire.
« En garde !» ordonna le jeune homme.
Aléa ne se fit pas prier et se lança sur son adversaire sans réfléchir. Elle allait lui montrer de quoi une jeune voleuse était capable. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de pointer son épée, Erwan avait glissé d'un pas gracieux sur le côté, si bien qu'il se trouva de profil et fit un croche-pied à la jeune fille. À sa grande surprise, pourtant, Aléa retrouva rapidement l'équilibre et se retourna habilement.
« Pas mal, » dut reconnaître Erwan. « Mais j'ai toujours mon épée. Aurais-tu déjà oublié cette botte secrète ?»
Aléa reprit son souffle et se lança de nouveau, visant cette fois la garde de son professeur. Erwan n'esquiva pas et attendit que la pointe de l'épée d'Aléa arrive à la hauteur de son poignet. Quand elle se coinça contre sa garde, il donna un coup violent vers le sol. L'épée d'Aléa fut projetée à terre, arrachant à la jeune fille un cri de douleur. Dans un même élan, Erwan fit passer la pointe de son arme dans l'anse de celle d'Aléa et la projeta en l'air afin de l'attraper ensuite de la main gauche. Il se retrouvait maintenant avec une épée dans chaque main, alors qu'Aléa était tombée à genoux, se tenant le poignet droit en grimaçant. Erwan partit poser les 2 épées sur le banc et en revenant vers Aléa, il donna sa leçon.
C'est le plus souple et le plus fort des 2 poignets qui l'emporte, Aléa. Il faut plier, mais rester ferme, tu comprends?
Je comprends que tu m'as cassé le poignet, voilà tout.
Un poignet souple ne casse pas, Aléa.
Je suis sûre que cette leçon-là restera gravée dans ta mémoire. J'aurai fini de t'instruire le jour où tu sauras me désarmer. Ce jour-là, je n'aurai plus rien à t'apprendre. » Il essayait de garder le ton autoritaire du professeur, se souvenant de la façon dont lui avait parlé son père, mais il commençait en réalité à regretter d'avoir fait mal à la jeune fille. Ce n'était pas une méthode très digne. Finalement, lui aussi pouvait tirer des leçons de ses journées d'entraînement. « Les professeurs apprennent toujours autant que leurs élèves », se dit-il. « Jolne, voulez-vous bien emmener Aléa à l'infirmerie? Je pense qu'un bandage et un peu de repos lui feraient du bien. » Le poignet d'Aléa n'était heureusement pas cassé, mais un jeune vat ne manqua pourtant pas de lui porter des soins. 2 jours plus tard, Aléa était de retour, bien décidée à montrer à Erwan qu'elle n'abandonnait pas facilement. Elle se montra pleine d'énergie et rattrapa bientôt Mjolne, qui avait pourtant des années d'expérience. Mais la rage et la volonté d'Aléa valaient bien 10 ans de pratique. Chaque fois que la jeune fille parvenait à l'emporter sur Mjolne lors d'un combat, le nain trouvait toujours une excuse pour mettre cela sur le dos de la malchance. Il riait beaucoup, se dépensait sans compter et nouait les liens profonds d'une amitié insouciante. Mjolne et Aléa passaient tout leur temps avec Erwan. Les druides ne vinrent jamais les déranger, sans doute occupés par d'autres affaires. Quand les deux amis ne s'entraînaient pas, le jeune garçon leur faisait visiter le jardin, les tours. Il leur présentait les serviteurs, les autres apprentis magistels, et le soir, auprès du feu, il les faisait jouer au fitchel. Le jeune homme faisait preuve d'une éducation et d'une intelligence hors du commun. Aléa finit par oublier ce qui l'avait tourmenté depuis plusieurs jours et découvrit un sentiment nouveau dont elle refusait d'avouer le nom. Erwan était certainement le plus beau jeune homme qu'elle ait vu de sa vie, et elle éprouvait pour lui tout ce qu'elle avait éprouvé des années plus tôt pour son ami Amine. Mais cette fois-ci, c'était un garçon, et elle ressentait un petit quelque chose en plus qu'elle ne maîtrisait pas encore et qui la faisait rougir quand Mjolne essayait de le lui faire dire.
« Dis-moi, Aléa, tu serais pas en train de tomber amoureuse, Belli Bella ?»
chuchota-t-il d'un air malicieux. Mais Aléa, essayant de cacher le rouge sur ses joues, fit celle qui n'entendait pas et reprit l'entraînement de plus belle. Le 4e jour, Erwan expliqua qu'il devait s'absenter pour accompagner son père et promit qu'il serait de retour dans peu de temps. Aléa cacha sa tristesse et lui dit simplement qu'elle allait s'ennuyer sans ses cours d'escrime. « Tu peux t'entraîner sans moi à présent. Et puis, il y a des choses sur lesquelles tu devrais travailler seule. » Aléa leva un sourcil. « Quelle chose ?» Erwan se mordit les lèvres, visiblement gêné. Il alla ranger les armes d'entraînement et se décida à répondre alors qu'il avait le dos tourné.
« Tu es comme mon ami William. »«
Que veux-tu dire ?» insista la petite.
« Tu as... ce pouvoir. Cette chose que je n'ai pas et que tu dois apprendre à maîtriser. Avec elle, tu seras plus forte que je ne pourrai jamais le devenir. »
Aléa crut qu'elle allait s'effondrer. Ainsi, Erwan savait quelque chose, ou en tout cas la connaissait-il mieux qu'elle ne l'avait pensé. Comment pouvait-il affirmer qu'elle avait quelque pouvoir alors qu'elle-même n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait ?
« Tu sais quelque chose que je ne sais pas ?» demanda la jeune fille timidement.
Erwan se retourna. On pouvait lire sur son visage un mélange de certitude et de tendresse.
« Je ne sais rien. » Mais je le sens en toi. Tu es comme était William avant qu'il ne s'entraîne. Et aujourd'hui, il est devenu druide, et on l'appelle Fingin. C'est difficile à expliquer, mais je le vois dans tes gestes, tes réflexes et ta façon de te battre. Tu as ce pouvoir.
Tu dis n'importe quoi, se défendit Aléa sans réelle conviction. Je n'ai aucun pouvoir du tout.
Peut-être ne t'en rends-tu pas encore compte, mais je sais qu'il y a ça au fond de toi. « Plutôt que de le refuser, tu devrais essayer de le dominer. »
Le cœur d'Aléa battait à tout rompre. C'était comme si elle avait été trahie. Comme si on la déshabillait soudain sans qu'elle puisse se défendre. Erwan voyait en elle. Elle était gênée, mais elle décida qu'il ne servait plus à rien de se cacher.
« Et comment pourrais-je maîtriser quelque chose que je ne comprends pas ? » demanda-t-elle, si bas qu'Erwan ne fut pas sûr qu'elle attendait vraiment une réponse.
Quand William a commencé son entraînement, je l'ai aidé, sans le savoir, en lui apprenant des exercices que mon père m'a enseignés dès mon plus jeune âge. ces exercices dédiés à la concentration avant le combat se sont révélés efficaces pour William dans la maîtrise de son pouvoir. Peut-être pourrais-je t'aider aussi.
Mais je n'ai rien à voir avec William, c'est un druide.
Peut-être, mais rien ne nous empêche d'essayer.
Ce que tu as au fond de toi se contrôle peut-être de la même manière.
La jeune fille s'assit sur un banc, troublée. Elle ne savait plus comment réagir. Ces 4 jours passés auprès d'Erwan lui avaient fait oublier cette histoire, et voilà que tout lui revenait d'un seul coup, et à cause de lui, de surcroît.
Aléa, je dois partir ce soir pour 2 jours. Tu auras tout le temps d'y penser. Sache seulement que ces exercices ne pourront de toute façon pas te faire de mal.
Au pire, ils t'aideront pour le combat.
Je n'ai pas vraiment l'intention de me battre.
Erwan sourit à la jeune fille et l'invita à le suivre à travers la cour pour se rendre vers le bâtiment central.
Si tu veux, pendant mon absence, tu peux déjà apprendre le premier exercice.
Quel exercice ?
Erwan la regarda longuement, puis il ferma les paupières en souriant.
Allumez la chandelle entre tes yeux.
Quoi ?
Pouffa Aléa en se demandant si le jeune homme ne se moquait pas d'elle. Le premier exercice consiste à fermer les yeux et à faire apparaître dans son esprit une flamme située dans un point imaginaire en bas de ton front, là, entre tes yeux.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Apprendre à contrôler son esprit. Si tu arrives vraiment à voir mentalement cette chandelle et que tu parviens à l'allumer et à l'éteindre par la force de ton esprit, alors tu auras réussi le premier exercice. Plus tu t'entraîneras, plus cela deviendra facile et rapide. Il se tourna vers elle, les yeux toujours fermés.
« En ce moment, je vois la chandelle »,
chuchota-t-il. Il resta un instant silencieux, puis il ouvrit enfin les yeux. Il laissa Aléa devant le bâtiment central et se dirigea vers les appartements de son père en lui adressant un dernier sourire.
À bientôt, Aléa. Entraîne-toi.
Le jeune homme disparut derrière la grande porte de bois, et Aléa, encore déconcertée, se décida finalement à rejoindre Mjoln. Ils s'installèrent dans la chambre de la petite et se mirent à jouer au fitchel pour faire passer le temps. Le nain remporta la première partie, Aléa la seconde, et au beau milieu de la troisième, la jeune fille bredouilla timidement.
Mjoln, si vraiment j'étais... comme tu dis... Enfin...
Amoureuse ?
Proposa le nain avec un large sourire, tout en avançant un pion à la diagonale d'une tour d'Aléa.
Oui, enfin, peu importe. Bref, est-ce que tu crois qu'Erwan... Enfin, tu crois qu'il m'apprécie ?
Lâcha-t-elle péniblement en regardant le plateau.
Mais par la Moira, ce gamin est fou amoureux de toi. Fou sur la tête, Aléa. Tu le vois pas ?
Le nain avança son pion sur celui d'Aléa et sortit la pièce du plateau.
Tu dis n'importe quoi. Non, sérieusement, Mjoln, s'il te plaît.
Mais je suis sérieux. Regarde. Ah, je suis sérieux,
assura le nain en croisant les bras sous sa barbe rousse et en fronçant les sourcils.
Du moins, aussi sérieux que peut l'être Mjoln. Tu ne vois pas comment il te regarde ? Tu ne vois pas comment, quand il essaie de me montrer quelques nouvelles passes, il n'y est pas du tout, tant ses pensées sont occupées par toi. Ah ben ça oui, il est fou sur la tête. Tu n'entends pas combien le ton de sa voix change quand c'est à toi qu'il parle. Mais enfin, lanceuse de cailloux, tu es sourde et aveugle.
La jeune fille ne répondit pas. Elle baissa les yeux et fit mine de s'intéresser davantage à la partie de Fitchel. Peut-être le nain disait-il vrai, et cela faisait battre son cœur si fort qu'elle se sentait presque mal, comme si elle avait peur. Elle se sentait vidée de tout le reste et portée seulement par le bruit de son cœur, qui cognait si vite que c'en était presque douloureux. Elle aurait voulu qu'Erwan soit là, pourtant elle n'aurait sans doute rien osé lui dire. Maintenant, elle avait complètement oublié sa ruse sur le plateau.
Qu'avait-elle eu l'intention de faire ?
Sans trop y croire, elle avança de nouveau un pion dans les lignes ennemies. Mjoln progressa alors sur toute la longueur du plateau pour venir se placer sur la dernière ligne de son adversaire. La jeune fille avait oublié de se protéger.
« Perdu !»
s'écria le nain en sautant hors du lit
Ah, tu me bats peut-être à l'épée, ça oui, mais tu ne mourras pas au fichel, lanceuse de cailloux. À présent, je vais me coucher. Et toi, fais de beaux rêves.
Puis il disparut dans sa chambre. Aléa se coucha, mais son esprit n'était pas apaisé. Elle aurait tant aimé que tout soit plus simple. Vraiment ? Se demanda-t-elle pourtant. N'était-ce pas elle qui avait rêvé d'aventure et de changement ? Elle soupira et pensa aux dernières paroles d'Erwan. Elle se dit qu'elle devrait essayer son fameux exercice. Après tout, cela l'aiderait peut-être à dormir. Elle ferma les yeux et tenta de faire le vide dans son esprit. Elle réalisa alors qu'elle avait déjà fait cela plusieurs fois par elle-même, d'instinct, quand elle avait voulu comprendre ce qui lui arrivait. Si son intuition ne lui avait pas menti, alors peut-être qu'Erwan non plus. Elle se concentra pour faire apparaître une petite lumière au milieu de son esprit, une chandelle, ou peut-être simplement une flamme. Mais il y avait trop de choses dans sa tête. Ses pensées s'embrouillaient, et chaque fois qu'elle avait le sentiment de pouvoir s'arrêter sur l'image de cette petite flamme, son esprit s'envolait vers d'autres rivages. Elle se perdit finalement dans ses pensées et s'endormit profondément. Il avait fallu à peine 8 jours au Tuatan pour envahir tout le sud de la galaxie, sans que le roi Eogan ne puisse trouver le temps ou peut-être le courage d'envoyer son armée. De toute façon, il était bien trop occupé par son mariage. Après Atarmaja, les guerriers des clans Tuatan étaient maintenant aux portes de la Terre Brune, et le haut roi espérait sans doute que le comte Merian de Mor, son frère, réagirait à sa place. Dès le lendemain de l'invasion, d'autres Tuatan étaient arrivés par la gorge, sous la montagne, amenant femmes et enfants, qui s'installèrent petit à petit dans les villages conquis, et encore d'autres guerriers, qui venaient protéger leur nouveau territoire ou renforcer leur armée. C'était comme si le ventre de la terre s'était vidé sur l'île de Gaelia. Ils étaient près de 3000 ce soir-là, autour de Philiden, la première ville après la frontière de la Terre Brune. Les habitants de la région ne se laissaient plus surprendre et ils s'étaient préparés au combat, et l'avancée devenait de plus en plus dure pour les Tuatan à mesure que la nouvelle de leur arrivée se répandait dans le royaume. Le siège de la ville dura toute la nuit. Les soldats de Philiden envoyaient sur les Tuatan d'énormes rochers par les catapultes qu'ils avaient construites tout autour, et des rangées d'archers décochèrent pendant longtemps des flèches enflammées depuis l'enceinte de la ville. De nombreux guerriers, assaillis par cette pluie de métal et de feu, tombèrent dans les rangs des Tuatan. Mais au petit matin, alors que la nuit de combat avait épuisé l'armée de Philiden, le chef Sarkhan donna enfin l'ordre de l'assaut. Les Tuatan fondirent tout droit sur la ville en hurlant, avec cette force et cet acharnement qui faisaient leur réputation de barbares. Les combats furent des plus violents et durèrent tout le jour, les Tuatan acculant petit à petit l'armée brunoise vers le centre de la ville. Sarkhan avait demandé qu'on ne brûle cette fois aucun bâtiment. Philiden était trop belle et il voulait que les chefs de clan s'y installent. Cela rendait la lutte encore plus difficile pour ses troupes. Mais rien ne les arrêtait. Ils laissèrent pour une fois les habitants de la ville s'échapper, et avant le début de l'après-midi, à force d'assaut, de ruses et de contre-attaques, ils vinrent à bout de l'armée de Philiden. Ce fut sans doute la plus importante victoire des Tuatan, et en tout cas, la plus décisive depuis qu'ils étaient sortis de leur longue retraite souterraine. Sarkhan avait fait prisonnier 10 soldats et ordonna qu'on les lui amène le soir même dans la grande salle du château où il avait élu domicile. Le chef du clan Maatangor ne parlait pas le gaélien et un interprète traduisit ses propos aux soldats terrorisés.
« Partez vers le sud. Nous vous laissons la vie sauve pour que vous puissiez porter la nouvelle dans les 5 fiefs de la Gaelia. Dites-leur que les Tuatan ont repris un bout de la terre qui leur appartient. Car la Gaelia nous appartient. Dites-leur que c'est ce que moi, Sarkhan, chef des clans, proclame aujourd'hui, et tous les Tuatan avec moi. Dites-leur enfin que nous ne nous arrêterons pas là. Et maintenant, fuyez !»
Les soldats ne se firent pas prier et s'enfuirent dès que possible. Certains se cachèrent, et on ne les revit jamais. Mais d'autres parvinrent jusqu'à Providence, où ils répétèrent exactement ce qu'avait dit Sarkhan. Imala resta encore en compagnie des verticaux sylvestres. Sa vie était paisible, elle n'avait presque plus besoin de chasser, et les parties de la forêt où progressaient les verticaux étaient plus belles et douces les unes que les autres. Mais après quelques jours, alors qu'il continuait d'avancer au cœur des arbres, elle finit par se lasser. Elle ressentait au plus profond de son instinct de louve l'appel de la nature, de l'aventure, et peut-être aussi le besoin d'une certaine solitude. Elle essaya de faire sentir aux verticaux qu'elle les abandonnait, mais qu'elle était reconnaissante, et il lui sembla qu'il comprenait. Un soir donc, elle fit demi-tour et s'éloigna. Elle galopa vivement dans la forêt, comme si elle retrouvait une nouvelle liberté, et s'arrêta enfin, après de longues foulées, à l'orée d'une clairière. Là, elle s'assit et se mit à hurler aussi fort qu'elle put, espérant seulement que les verticaux au loin entendraient ce dernier adieu amical. Puis elle se coucha sous un arbre. Elle passa les jours suivants à réapprendre à chasser seule, et trouva quelques proies délicieuses dont la piste la menait petit à petit vers le sud. Un soir enfin, elle arriva à la lisière de la forêt et retrouva le sol gréseux de la lande. Loin vers l'est, elle aperçut les lumières d'une ville. Quelques jours plus tôt, elle n'aurait jamais osé s'en approcher. Effrayée par les verticaux et leurs pouvoirs étranges, elle aurait plutôt choisi de retourner dans la forêt. Mais ces derniers jours l'avaient complètement transformée, et elle se décida à partir en direction de l'est. Fingin arriva à Providence le matin du mariage royal. Partout flottait le blason du roi, brodé sur des drapeaux, la couronne de diamants. La ville était en fête et resplendissait plus que jamais. On avait décoré les maisons, les échoppes et les rues même, et tous les habitants de la capitale avaient mis leurs habits les plus élégants. Fingin fut accueilli par 6 serviteurs du haut roi, qui le menèrent en calèche à travers la ville jusqu'au palais de Galassi. En chemin, il put admirer la beauté de Providence. La ville montrait ses plus beaux attraits, ses façades penchées, les murs en colombage où l'on avait couvert d'une nouvelle chaux blanche le torchis régulier, les balcons en encorbellement et leurs rangées de fleurs, les lucarnes en saillie au milieu des mansardes, les perrons de pierre blanche au pied des portes en bois, les clochers, les jardins, les marchés, les petites places. La ville fourmillait. Ici, certains riches citadins avaient fait appel aux artistes bizaniais pour décorer leurs façades en l'honneur du roi. Plus loin, on avait couvert une maison de fleurs. Là, on avait coloré l'eau d'une fontaine. Les soldats avaient revêtu leurs costumes d'apparat. Il n'y avait pas un espace de la ville où l'on ne célébrât le mariage du roi par la grâce des couleurs et des formes. Enfin, la calèche arriva au palais. Fingin ne l'avait jamais vue que de l'extérieur et resta bouche bée pendant toute la traversée du parc qui s'étendait jusqu'à l'immense édifice. Il se rappela l'impression qu'il avait eue quelques années plus tôt, en entrant à Saimina, et se demanda s'il n'était pas aussi ému aujourd'hui. Alors que Saimina s'élevait vers les cieux comme un défi aux lois de l'équilibre, le palais de Providence, lui, était tout en longueur. Les jardins s'enchaînaient à perte de vue. Les parterres de gazon succédaient aux parterres de fleurs. Ici, des terrasses où se dressaient encore d'autres plantes aux couleurs variées, et plus loin, des bassins circulaires, au milieu desquels se croisaient des jets d'eau en aiguilles et en éventails. Les hautes roues de la calèche crépitaient sur les cailloux blancs des allées effilées, comme on avançait vers le palais royal. « Maître druide, nous sommes arrivés !» déclara un serviteur en ouvrant la petite portière de bois à gauche de la voiture. Fingin descendit lentement, les yeux rivés sur la façade de l'édifice. Il suivit le serviteur tandis que son regard se perdait dans les hauteurs du palais. Quand il se fut rassasié de la splendeur des lieux, il parla enfin. « Je dois voir le roi au plus vite. C'est une affaire de la plus haute importance. Nous avons été prévenus, druide, et malgré son mariage, le haut roi a accepté de vous réserver un entretien avant midi. Quelqu'un viendra vous chercher. Mais je dois d'abord vous montrer votre chambre. » Ils traversèrent ainsi l'aile gauche du palais, où tout brillait, les lustres, les marbres, les bois. Mais Fingin ne devait pas se laisser troubler par la beauté des lieux, ni perdre son assurance. Une seule chose comptait, être convaincant. Il avait peu de temps pour obtenir l'adhésion du roi. Il fallait qu'il soit efficace. Il décida donc de passer le temps qui lui restait à se concentrer dans sa chambre. Il se laissa pénétrer par le pouvoir réconfortant du Saïman. Il s'appliqua à le faire courir tout le long de son corps, à s'y immerger complètement, puis à l'amener jusqu'au bout de ses doigts où il fit danser de petites flammes. Il se laissa hypnotiser par sa propre lumière et accorda son âme au vacillement du feu. Il resta ainsi à se préparer jusqu'à ce qu'on frappe à sa porte et suivit alors les serviteurs jusque dans le bureau du roi.
« C'est la première fois que je vous vois, druide !» déclara le monarque sans se lever.
Éogan avait revêtu un costume noir et or de confection byzantine et portait déjà la célèbre couronne de Galatie, bien que la cérémonie du mariage ne fût encore commencée. Sur son costume était simplement brodé le blason de son royaume. La couronne de diamants.
Il a besoin que je le mette en confiance.
Je viens de recevoir mon titre, Votre Altesse, mais je suis là au nom de tous les miens, et je vous prie de recevoir les salutations respectueuses de mes frères et de moi-même. Vous tombez ici le jour de mon mariage. C'est horriblement mal choisi.
Il me teste. Il faut que je l'impressionne. Je pourrais user du Saïman pour changer mon apparence et la rendre plus inquiétante, mais ce ne serait ni juste ni prudent. Non, je dois l'impressionner autrement, sincèrement. Je lui ai offert le respect dû à son rang, il faut maintenant lui montrer que je suis druide et qu'à son tour, il me doit le respect. Il espère profiter de mon jeune âge, mais je peux lui rappeler ce qu'il doit au druide.
Croyez-vous que je me serais permis de vous déranger aujourd'hui si ce que j'ai à vous dire n'était pas plus important qu'un mariage? Il en va de l'avenir des habitants de votre royaume, Éogan. Et si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, que ferez-vous de cette union quand les Touatanes auront pris votre place et votre fortune? Depuis quand les druides ne sauraient-ils plus mesurer les priorités politiques?
Le roi parut étonné. Il connaissait l'arrogance des druides. Mais il ne s'était pas attendu à une attaque si brutale de la part d'un garçon si jeune.
Je vous écoute, Fingin. Ce n'est pas Fingin qui vous parle, Éogan. C'est Saïmina tout entière.
Voilà qui devrait le remettre à sa place une bonne fois pour toutes.
Très bien, je vous écoute. Les Touatanes ont envahi le sud de la Galatie et massacrent encore au moment où je vous parle les habitants du royaume. De votre royaume. Ils avancent à présent sur la terre brune, le comté de votre frère. Par la Moïra, je sais cela, et je prépare mon armée en ce moment même.
Pourtant, je suis venu vous proposer autre chose.
Vous avez un autre moyen de nous défendre?
Oui. La paix.
Comment cela?
L'attaque des Touatanes est légitime. Ils reviennent sur leur terre.
« Pas du tout. Ils nous envahissent. »«
Éogan !» gronda Fingin, en cédant cette fois à la tentation d'user du Saïman pour rendre sa voix plus menaçante.
« Vous pouvez mentir à votre peuple, vous pouvez vous mentir à vous-même si vous le voulez, mais pour l'amour de la Moïra, ne mentez pas aux druides qui vous parlent. Si vous ne connaissez pas l'histoire, que faites-vous sur un trône ?»
Le haut roi resta muet. La colère brûlait au fond de ses yeux. Fingin attendit un moment avant de reprendre la parole.
Il est en colère. Très bien, je dois m'en servir à présent. Il faut que je laisse retomber un peu sa rage, que je lui fasse entendre la raison, et je retournerai ensuite cette colère frustrée à l'endroit où elle doit se porter.
Cette attaque est légitime et nous avons deux choix. Soit nous les attaquons, soit nous trouvons un accord pour que leur invasion s'arrête là. Si nous les attaquons, nous avons certes une chance de les battre, mais à quel prix? Combien de morts? Combien de pertes? Cette guerre serait ardue et nous affaiblirait.
Maintenant, je dois envoyer l'hameçon.
Et qui en profiterait, Majesté? Eh bien, les Touatanes!
Pas seulement. Harcourt en profiterait aussi. Se battre contre un nouvel ennemi, ce serait ouvrir la porte à Thomas Aeditus, au comte Alroeg et à ses soldats de la flamme qui ne trouveraient ici plus aucune résistance. Le roi fronça les sourcils. La véritable question, c'est quel ennemi choisir?
Harcourt n'acceptera jamais de combattre les Tuatan à votre côté et en profitera au contraire pour vous prendre à revers.
Et maintenant, le point d'orgue.
En revanche, offrez aux Tuatan la légitimité, disons au nord de la Terre Brune, et ils pourront devenir de précieux alliés contre l'évêque Aeditus et le comte Alroeg d'Harcourt. Je vous demande de réfléchir, Majesté, mais à long terme.
Le roi se recula sur son siège sans quitter le jeune druide des yeux.
Vous voudriez que je prive mon frère de la moitié de son comté? Vous n'êtes pas sérieux.
Il l'a presque déjà perdu. Si vous ne faites rien, d'ici quelques jours, c'est tout le comté qui sera aux mains des Tuatan. Vous saurez le faire comprendre à votre frère.
Et comment être sûr, si nous offrons le nord de la Terre Brune à ces barbares, qu'ils arrêteront leur massacre? Combien de terres leur faudra-t-il pour qu'ils soient satisfaits?
Ça y est, je le tiens.
Ceci, Majesté, est notre affaire. Si vous acceptez notre résolution, alors nous nous chargerons de sa réalisation diplomatique. Les Tuatan nous écouteront.
Et s'il le faut, nous leur donnerons Harcourt. Ils écraseront pour nous le comte et ses chrétiens.
Et comment expliquer aux Brunois du Nord que leur terre devient la propriété des Tuatan?
Si j'ai réussi à vous convaincre, vous êtes roi. Vous devriez réussir avec vos propres sujets.
C'est une réponse osée, mais il apprécie le jeu.
Et qui plus est,
ajouta le jeune druide,
vous pourriez offrir aux éventuels réfugiés de nouvelles terres dans le sud de la galaxie. Il y a encore beaucoup de place en votre royaume.
Qu'en pense le baron de Bizagne?
Les bardes ne m'ont rien dit.
Le baron Alvaro Bizagni n'attend que votre accord pour donner le sien.
Mentir, c'est parfois prendre de l'avance sur la vérité. Pourvu que Kiaran parvienne à convaincre Bizagni, sinon ce mensonge n'aura servi à rien.
Et Hogan lâcha un long soupir et demeura un moment sans rien dire en se grattant le menton.
« Vous restez pour la cérémonie ?»
demanda enfin le haut roi en se levant.
« C'est un honneur, Majesté. »«
Alors je vous donnerai ma réponse demain matin. »
Le roi quitta la pièce sans se retourner.
« Il est d'accord. »
se dit simplement Fingin en se levant à son tour.
Mjoln et Aléa passèrent une semaine encore dans le luxe de Saïmina. Le nain continuait de s'entraîner aux côtés des magistels et de leurs apprentis, et la jeune fille se contentait de faire le vide dans sa tête et de réfléchir. C'était la première fois qu'elle prenait vraiment le temps de réfléchir et d'analyser ses propres pensées, ses envies, ses peurs, ses espoirs. Elle n'avait de cesse de s'entraîner à l'exercice que lui avait conseillé Erwan et parvenait chaque soir un peu plus à en comprendre le sens et l'intérêt. Elle apprenait à contrôler une force beaucoup plus importante que celle de ses propres muscles. Mais elle ne trouvait pas la réponse à la question qui la hantait le plus. Que lui voulaient les druides et que préparaient-ils dans le secret de leur tour? Félim avait réussi à la convaincre de le suivre, mais elle ne savait toujours pas quelle était l'intention du conseil. Et elle ne supportait plus le silence, l'immobilisme auquel Saïmina l'obligeait. Elle ne tolérait plus l'interdit qui mettait une distance si grande entre elle et les druides. S'il parlait d'elle, pourquoi ne pourrait-elle pas écouter? Ainsi, un soir, Aléa décida d'aller voir la chambre du conseil en cachette. Elle savait que c'était formellement interdit, mais elle était trop curieuse et se dit qu'après tout, c'était son droit. On la gardait de force à Saïmina. Il lui semblait qu'en échange, elle pouvait bien en voir un peu plus que ce que Félim voulait bien lui montrer. Elle attendit donc qu'il n'y ait plus personne dans la cour et se faufila au pied du grand donjon. La porte était verrouillée, mais elle n'en était pas à son premier crochetage et ouvrit rapidement la serrure sans faire de bruit à l'aide d'une petite épingle qu'elle avait pris soin d'emporter. Elle n'avait pas oublié sa vraie nature. Après tout, n'était-elle pas d'abord une petite voleuse? Elle retrouva cette sensation savoureuse de peur et d'excitation qui la gagnait jadis chaque fois qu'elle chapardait de quoi manger dans la petite ville de Saratea.
Elle sourit à ce doux souvenir, prit sa respiration et franchit le seuil. Elle se retrouva au pied d'un escalier étroit qu'elle entreprit de monter en silence. Il y avait une issue à chaque étage, mais elle se doutait que la pièce qu'elle voulait voir se trouvait au sommet et ne perdit pas de temps. À mi-chemin, elle entendit soudain quelqu'un qui descendait les marches. Une personne, ou peut-être deux. Prise de panique, elle chercha à se cacher. Ne trouvant rien, elle descendit quelques marches vers l'étage inférieur pour se dissimuler derrière une porte. Celle-là aussi était fermée, et elle sortit l'épingle de sa poche pour crocheter la serrure. Les bruits de pas s'approchaient dangereusement, et ses mains se mirent à trembler tant elle avait peur de se faire surprendre. Elle sentit son cœur battre de plus en plus fort, et se mordit les lèvres en forçant sur l'épingle. Au moment où des pieds apparurent au coin de l'escalier, la serrure céda enfin. Aléa passa de l'autre côté de la porte et la referma derrière elle vivement, mais sans bruit. Coincée dans une pièce obscure, elle pria la Moïra pour qu'il n'y ait personne de ce côté-ci. L'air de la pièce était glacé, et elle se persuada que c'était donc le froid qui la faisait trembler. Bientôt, elle entendit les deux personnes qui passaient dans l'escalier. Elle comprit vaguement quelques mots, mais le sens de leur conversation lui échappa. Elle attendit un moment le dos collé au mur, puis sortit, sans chercher à savoir ce qu'il y avait dans la pièce où elle s'était cachée. Sans perdre de temps, elle se remit à monter les marches, plus vite cette fois, poussée par l'excitation. Elle arriva enfin au dernier étage et fut étonnée par la taille de la porte, qui était beaucoup plus petite que celle de l'étage inférieur. Elle essaya de regarder par le trou de la serrure, mais ne vit rien. Elle hésita un instant, puis trouva enfin le courage d'ouvrir l'étroite porte. Elle n'était pas fermée. Elle jeta un regard à l'intérieur et découvrit une sorte de balcon, une mezzanine sans doute. Une source de lumière brillait en contrebas, et Aléa entendit les voix de plusieurs hommes. Elle hésita encore un instant, puis se mit à ramper de l'autre côté. Elle traversa la mezzanine et vint regarder la pièce plus bas à travers les barreaux. Incroyable! Elle était donc arrivée juste au-dessus de la chambre du conseil et pouvait voir les grands druides assemblés dans de hauts fauteuils de bois. Il y avait là Félim, Aileen et quelques autres. Aléa savait pertinemment qu'elle était en train de commettre une faute très grave, mais la curiosité était plus forte que tout, et elle essaya d'écouter ce qui se disait plus bas.
Elle n'a pas l'air de ressentir quoi que ce soit, et n'a jusqu'à présent fait la preuve d'aucun pouvoir ou d'aucune force étrange,
disait Aileen.
Il parle de moi, comprit Aléa, et cela l'inquiéta encore davantage.
Archidruide, vous mettez en doute ma parole,
s'offusqua Félim.
Mes yeux ne m'ont pas trompé. Je l'ai vue par deux fois user d'un pouvoir qu'elle ne maîtrisait pas. Si elle était le Samil Danak, ce qui est une aberration en soi, elle ne serait pas ici à jouer avec cet idiot de nain dans la cour. Elle serait trop occupée par son pouvoir et son destin. Nous le verrions tout de suite. Et de toute façon, chacun sait ici que le Samil Danak ne peut être une fille,
s'exclama Aileen, visiblement agacée.
Pourtant, dans l'encyclopédie d'Anali,
murmura Hernan sans conviction.
Il suffit! Ce qui est écrit n'a aucune valeur, Hernan. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits uniquement. Dès demain, nous allons voir une bonne fois pour toutes si cette petite a quelque chose de spécial en la soumettant aux manites de Gaba. C'est hors de question!
S'écria Félim en se levant.
Vous savez très bien qu'elle n'y survivrait pas si elle n'est pas le Samil Danak. C'est le seul moyen de savoir. Et nous ne pouvons la laisser partir sans être sûrs. De toute façon, vous êtes persuadé qu'elle est le Samil Danak. Alors, que craignez-vous ?
Aléa n'en croyait pas ses oreilles. Aileen, qui lui souriait chaque fois qu'elle le croisait, était prête à la soumettre à une épreuve mortelle, juste pour savoir si elle avait ou non reçu le pouvoir d'Ilvin. En d'autres termes, il ne valait pas mieux que le terrible Maol Morda. Elle aurait voulu fuir tout de suite pour ne pas entendre le reste de cette conversation, mais elle était tétanisée par la peur.
« Nous allons donc voter !»
ajouta l'archidruide.
« Impossible !»
protesta Félim.
Nous ne sommes que 7. Aldero n'est pas encore rentré de sa mission, et nos 3 ambassadeurs dans l'affaire des Tuatan, Aod, Fingin et Kiaran, ne sont pas prêts de revenir. Un vote aussi grave nécessite que tous les frères soient là. Plus de la moitié du conseil est présente, et cela suffit amplement, Felim. J'ai peur que votre amitié pour cette jeune fille ne fausse votre jugement. Agissez en grand druide, et non pas comme un jeune apprenti. Il s'agit avant tout d'agir en homme, quand la vie d'un enfant est en jeu, Aileen. Taisez-vous, Felim. Vous dépassez les limites de ma patience. Mes frères, il va falloir maintenant voter pour savoir ce que nous devons faire. Soumettre l'enfant aux manides de Gaba afin de savoir si elle est le Samil Danak, ou bien la laisser en paix et rester dans l'ignorance quant à l'héritage du pouvoir d'Ilvin. Levez la main, mes frères, si vous êtes pour la première solution,
ordonna Aileen. Ils levèrent tous la main, sauf Felim et Aengus, qui en l'absence de Fingin était le plus jeune druide. Felim se leva violemment pour quitter la salle. Mais Aileen se dressa à son tour et le rappela à l'ordre.
Felim, le conseil n'est pas terminé, et si vous quittez cette pièce, vous vous bannissez vous-même. Quels que soient vos sentiments, ne vous mettez pas en travers de nos lois.
Le druide s'arrêta aussitôt devant le seuil. Aléa crut d'abord que c'était l'ordre de l'archidruide qui l'avait retenu. Mais comme il avait levé les yeux, elle vit que Felim l'avait découverte. Et que c'était pour cette raison qu'il s'était arrêté si soudainement. Felim fit semblant de ne pas l'avoir vu, puis il se retourna vers le conseil et lança à l'archidruide un regard empli de fureur. Il hésita un instant, puis retourna à sa place et s'assit parmi ses frères. Aléa tremblait.
« Combien je regrette d'avoir amené cet enfant ici. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle s'enfuit avant que vous ne mettiez la main sur elle. » Mais puisque vous avez voté, je me plie à votre décision.
Aléa comprit le message que lui avait glissé le druide. Sans plus attendre, elle se faufila dans l'escalier qu'elle descendit aussi vite qu'elle put, en essayant toutefois de ne pas se faire remarquer. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Arrivée dans la cour, elle se précipita dans l'aile nord du palais et courut vers sa chambre. Au coin du couloir, elle tomba nez à nez avec Erwan. Elle sursauta en criant, et le jeune garçon eut un geste de surprise.
« Erwan, que fais-tu là ?»«
J'étais venu te dire que mon père et moi étions revenus. Et toi ? Tu as l'air terrorisé comme si un démon courait à ta poursuite. »
Aléa ne savait que répondre. Elle aurait voulu tout raconter à Erwan, mais c'était impossible. Il serait obligé de tout répéter au druide. Elle n'osait lui mentir pourtant.
« Je dois m'enfuir, Erwan, je peux pas t'expliquer pourquoi et je sais que tu devras le raconter au druide. Mais par pitié, attends le matin avant de me dénoncer, que je puisse fuir en paix. »
Erwan fronça les sourcils, stupéfait. Il aurait voulu la retenir, mais il lisait tant de détresse dans les yeux de la jeune fille qu'il n'en trouva pas la force. Aléa s'approcha lentement du jeune homme et soudain, en coup de vent, lui déposa un baiser sur la joue avant de courir vers la chambre de Mjoln. Elle referma la porte derrière elle sans se retourner, espérant seulement qu'Erwan la laisserait s'enfuir. À l'intérieur, le nain fit un bond sur son lit avant de reconnaître la jeune fille.
« Tu m'as fait peur, Aléa! Tu es folle de rentrer comme ça sans prévenir! Et je suis armée !»«
Nous devons fuir tout de suite, Mjoln. Si tu es mon amie, fais-moi confiance et ne pose pas de questions. Je t'expliquerai plus tard. Partons. »
Le nain fit une grimace d'incompréhension, mais finit par suivre la jeune fille qui s'élançait déjà dans le couloir d'où Erwan avait disparu. Le nain ramassa son épée et sa cornemuse, et les bras chargés, rattrapa la jeune fille en grognant. Ils arrivèrent rapidement dans la cour. Là, Aléa s'assura qu'il n'y avait personne pour les voir, puis ils coururent de l'autre côté du puits où se trouvait le long escalier qui descendait vers la mer. La jeune fille passa la première dans l'obscurité de la nuit, et dévala les marches aussi vite qu'elle put. Quand ils parvinrent en bas, sur la digue de pierre qui longeait la façade, essoufflés, ils découvrirent avec horreur qu'il n'y avait pas de barque. Au même moment, ils entendirent des cris en haut du roc, dans la cour du palais.
« Quelqu'un a découvert notre fuite !
S'écria le nain affolé.
Et moi qui ne sais pas nager ! Oh, ça non, pas nager !
Moi non plus, Jaln, mais nous allons trouver un autre moyen.
Les cris des soldats et des magistels se rapprochaient au-dessus d'eux, et ils arriveraient bientôt à l'escalier, à n'en pas douter. Aléa tomba à genoux et ferma les yeux le plus fort possible pour retrouver son calme. Soudain, cela lui vint à l'esprit, comme une obligation, une évidence. Elle allait enfin voir si l'exercice suggéré par Erwan pouvait réellement l'aider. Elle se concentra et tenta de faire apparaître la lumière au milieu de son front. Mais il n'y avait là que l'obscurité glaciale de la nuit. La jeune fille chercha encore. Soudain, une petite flamme se mit à vaciller dans son esprit, puis elle grandit, lentement. Alors que les cris de Mjoln semblaient disparaître derrière elle, Aléa sentit la lueur qui enflait au tréfond de son âme, comme si la petite chandelle qu'Erwan lui avait appris à trouver avait allumé un feu tout entier dans sa tête. Cette même sensation de puissance, de peur, de folie motivée par l'urgence et qui l'avait saisie dans la lande. Cette fois, elle se promit de ne pas l'abandonner. Elle chercha au plus profond d'elle-même l'incendie naissant, essaya de le saisir par la pensée, de s'y plonger pour ne faire qu'une avec lui. Quelque chose la poussait vers les flammes, quelque chose d'instinctif, d'animal, quelque chose qui la dépassait et qu'elle ne comprenait pas. Soudain, elle se leva d'un seul bond, portée par une force étrange qui lui brûlait le corps. Tous ses muscles semblaient contenir cette énergie inexplicable qui grandissait en elle, s'enflammait dans ses veines et son esprit. Quand elle ne put plus contenir cette vague puissante, elle tendit les mains vers la mer en hurlant de douleur. Mjoln fut projeté en arrière et tomba à la renverse. Quand il releva son buste, étourdi, il n'en crut pas ses yeux. Il secoua la tête, incrédule, et avança à quatre pattes à côté d'Aléa pour être sûr qu'il ne rêvait pas. Et pourtant, c'était bien réel. La barque, qu'on avait laissée de l'autre côté du rivage, avançait vers eux, toute seule, mue par quelque magie. L'avant de l'embarcation se soulevait vague après vague, comme si un vent puissant soufflait dans d'invisibles voiles. Aléa avait toujours les mains tendues au-dessus des eaux. Le vent soulevait ses cheveux noirs derrière sa nuque, comme se soulevaient les vagues sur la mer. Ses grands yeux bleus ne bougeaient plus, fixés droit devant elle. Elle paraissait plus grande que d'habitude, comme portée par magie au-dessus du sol. Elle était belle, majestueuse, et sur ses lèvres se lisait presque le sourire d'une adulte. Puis lentement, elle baissa les bras le long de son corps et tourna la tête vers Mjoln.
Qu'est-ce que c'est que ce prodige ?
Bégaya le nain terrorisé. Mais Aléa ne prit pas le temps de répondre. Elle n'était pas sûre de pouvoir le faire de toute façon, et elle attrapa le nain par le bras pour l'entraîner derrière elle. La barque avançait droit sur eux et ne ralentit que lorsqu'elle ne fut plus qu'à quelques mètres du bord. Aléa sauta à l'intérieur, suivie de près par le nain. Les voix se rapprochaient au-dessus d'eux. La jeune fille partit à l'avant de l'embarcation et se concentra de nouveau. Le nain n'attendit pas une seconde de plus. Il se saisit des deux rames et pagaya aussi vite que ses petits bras le lui permettaient. Après une courte distance, il sentit la mer filer sous la coque et le bruit du vent qui grandissait sur son front. Ils avançaient anormalement vite. Mjoln avait beau mettre toute son énergie dans les rames, il savait pertinemment qu'une force beaucoup plus puissante poussait la barque. La même force qui l'avait amenée jusqu'à eux, depuis l'autre rive. Une puissance magique dont il devinait l'origine, mais qu'il aurait préféré ne pas connaître. Ils traversèrent l'estuaire comme une flèche au-dessus des eaux, sans se retourner, sous l'obscurité menaçante des nuages nocturnes. Les cris des gardes de Saïmina, qui hurlaient, impuissants, au pied du gigantesque édifice, s'effacèrent petit à petit derrière le bruit de la mer et du vent. Quand enfin la barque s'échoua sur la rive opposée, la coque raclant le sable et les galets, les deux fuyards sortirent en courant et se laissèrent tomber sur la côte, à bout de force. Lorsqu'elle eut retrouvé son souffle, Aléa se dressa sur ses coudes pour vérifier qu'on ne les avait pas suivis. Elle ne vit que la mer et la silhouette imposante de Saïmina, perdue dans le lointain. Elle ferma les yeux, puis se laissa tomber sur le dos.
« Jaln, souffla-t-elle,
Il faut fuir. Ils vont venir nous chercher jusqu'ici.
J'en peux plus.
Moi non plus, mais il faut fuir. Un poids, c'est tout.
Ils se levèrent péniblement et partirent d'un pas vif vers le sud. Ils marchèrent ainsi sans parler pendant toute la nuit. Leurs jambes, leur dos leur faisaient mal, mais ils n'osaient s'arrêter. Aléa essayait de se calmer et d'éteindre le feu qui lui brûlait le ventre. Mais à présent, elle ne pouvait plus se mentir, et ce sentiment, lui, ne pourrait plus s'éteindre. Elle était le Samil d'Anak, et cette évidence cachée dans son cœur depuis le premier instant éclatait à présent au grand jour. Elle sentait le futur, tous les futurs du monde pesaient sur ses épaules, et elle se dit qu'elle n'était pas prête. Cette fois-ci, sans aucun doute, c'était bien une larme qui coulait sur sa joue. Quant à Mjolnir, il n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il avait vu, et il lançait régulièrement un regard inquiet vers la jeune fille, cherchant un réconfort qu'il ne trouvait pas. Était-ce bien elle qui avait fait avancer la barque? Et par quelle magie? Bientôt, leurs pieds meurtris et leurs muscles fatigués ne purent plus les porter plus loin, et ils se résolurent à dormir. Ils trouvèrent une petite grotte au pied d'une colline, et Mjolnir brisa enfin le silence.
« Quand j'étais jeune, plus jeune que toi, et que quelque chose m'avait rendu malheureux, je partais me réfugier dans une petite grotte près de Pelpi, qui ressemblait beaucoup à celle-là. Je pouvais y rester des heures à écouter les gouttes d'humidité tomber sur la roche. Je regardais les chauves-souris pendues au dôme de la grotte, en espérant qu'elles ne se réveilleraient pas. Elles ne se sont jamais réveillées. De temps en temps, il y en avait une qui secouait les ailes et me faisait sursauter, mais ça n'allait pas plus loin. Je me demande si elle savait que j'étais là, si elle savait pourquoi j'étais là, si elle ressentait ma tristesse. En tout cas, quand je suis triste, je pense à ces chauves-souris, et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Comme dans cette grotte, maintenant.
Aléa adressa un sourire au nain. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans sa voix, quelque chose de sincère. Elle devina qu'il avait eu très peur et se sentit proche de lui, plus proche que jamais. Elle se demanda même si elle aurait pu supporter d'être seule ce soir-là. À cet instant, ils entendirent le battement d'ailes d'une chauve-souris dans le fond de la grotte. Ils eurent d'abord un geste craintif, puis se regardèrent en souriant.